Bonjour à tous. Bienvenue dans Encore heureux. Jérôme David Salinger, nom de plume J.D. Salinger, est une légende et un mystère. Le plus connu des écrivains reclus, auteur du célèbre roman L'attrape-cœur. Né à New York en 1919, Salinger grandit dans une famille aisée de Manhattan. Son père est juif, importateur de viande, et sa mère catholique irlandaise. Salinger est beau, très grand, très brun et très mauvais élève. L'un de ses professeurs dit de lui qu'il est le pire étudiant de l'histoire du collège. Il échoue à ses examens dans plusieurs écoles avant de suivre des cours d'écriture à l'Université Columbia en 1939. Un an plus tard, il publie sa première nouvelle, « Les jeunes gens », qui raconte la vie de jeunes débutantes rentrées chez elles pour les congés scolaires et qui assistent à une soirée. En 1942, la vie change radicalement pour Salinger. Il est appelé sous les drapeaux. Il participe avec la 4e division d'infanterie américaine à des combats extrêmement violents. Et il est parmi les premiers soldats à entrer dans les camps de concentration libérés. En 1945, il est hospitalisé pour soigner un stress post-traumatique. Cette odeur de chair brûlée ne quittera jamais sa mémoire. Dans le portrait qu'elle dresse de son enfance, Margaret Salinger écrit que petite, elle n'avait pas compris que son père était écrivain, mais jamais douté un seul instant qu'il fût soldat. Pour preuve, les anecdotes qu'il racontait, les vêtements qu'il portait, le creux sur son nez, souvenir du jour où il se l'était cassé en sautant d'une jeep pour échapper à un tireur isolé, son oreille sourde à cause de l'explosion trop proche d'un mortier, l'eau et les conserves vertes, provisions d'urgence du surplus de l'armée qui s'empilait à la cave. Tout ce que je voyais, touchais, entendais de mon père, dit-elle, portait l'étiquette militaire. À partir de 1948, Salinger commence à se faire connaître avec la publication de plusieurs nouvelles dans le New Yorker. Oncle déglingué au Connecticut, juste avant la guerre avec les Esquimaux, jolie ma bouche et vert mes yeux, ou encore Un jour rêvé pour le poisson banane, une de ses nouvelles les plus populaires. Mais le retour à la vie civile est difficile. La guerre a profondément marqué l'écrivain. Celui-ci s'est installé dans un appartement de la 50e rue à New York. Sa future femme, Claire, reste sans voix en découvrant les lieux. C'était un de ces endroits entre sous-sol et rez-de-chaussée qui vous donne l'impression d'être sous l'eau. Tout l'appartement était noir et blanc. J'ai été ébahie par les draps noirs de son lit. Cela m'est apparu comme le comble de la sophistication et de la perversion. Mais pour Jérôme, je crois que les draps noirs, les étagères noires, la table basse noire et le reste étaient adaptés à sa dépression. Il sombrait dans de vrais trous noirs où il pouvait à peine bouger, à peine parler. Heureusement, toujours, dans la vie de Salinger, il y eut l'écriture. Des nouvelles, truffées de choses étranges et poétiques, comme le chat espion, un Allemand miniature très futé, camouflé sous une peau de chat. Ou ce professeur de dessin, qui peut montrer à un élève raisonnablement doué comment dessiner un porc reconnaissable dans une porcherie reconnaissable, ou même un porc pittoresque dans une porcherie pittoresque, mais qui ne pourra jamais montrer comment dessiner un porc qui fut beau dans une porcherie qui fut belle.
Radio B, 90 FM.
Des nouvelles, donc, rassemblées plus tard en recueil, et surtout un roman, publié aux États-Unis en 1951 et considéré comme une œuvre majeure de la littérature américaine, L'attrape-cœur. Le succès de ce roman est immédiat et colossal. Plus de 60 millions d'exemplaires ont été vendus à ce jour. Mais étrangement, Salinger ne savoure pas sa réussite. Il n'est tout simplement pas en Amérique à la sortie de son livre. Là où d'autres auraient enchaîné les dîners, les interviews, les invitations, lui décide de partir, ou plutôt de s'enfuir, dans les îles britanniques. À un confrère écrivain, Il dira plus tard « C'est fichtrement embarrassant de publier. Le pauvre type qui se laisse entraîner là-dedans pourrait aussi bien descendre Madison Avenue avec les fesses à l'air. » L'attrape-cœur. Le récit d'une errance de 3 jours dans les rues de New York juste avant Noël. Celle d'Holden Caulfield, 16 ans. Il s'est fait virer de la prestigieuse école préparatoire de Pensay et il n'ose rentrer chez lui affronter ses parents. Il déambule dans les rues, prend un taxi, se rend dans un club de jazz, contacte des connaissances, téléphone à sa petite sœur adorée Phoebe. Il fait du patin à glace avec une amie, rencontre 3 femmes d'une 30aine d'années, une jeune prostituée dans un hôtel miteux. Il discute avec 2 religieuses, puis avec un ancien professeur. Mais les autres sont presque tous des salauds, des pignoufs ou des truqueurs. Les gens bien, on ne les rencontre jamais, ou ils sont morts, ou ils n'existent que dans les livres. Ou pour une raison ou une autre, ils sont hors d'atteinte, et on retombe toujours sur les salauds, les pignoufs et les truqueurs. Holden Caulfield parle un argot bancal. Il jure à tout bout de champ. Il dit « Ma saleté d'autobiographie, mon enfance pourrie, toute cette salade. » Il dit qu'on écrira certainement « fuck you » sur sa tombe. Le ton incisif et volontairement relâché scandalise la société américaine des années 50. La figure de l'anti-héros, encore inhabituelle, choque. Les jurons, les outrances, les grossièretés et la poésie. Car Holden Caulfield, c'est aussi de la délicatesse en barre. Et des canards. Ceux-là même qui sont absents de Central Park, quand le lac est gelé, en hiver. Extrait. Je suis tellement distrait que j'ai donné au chauffeur du taxi ma vraie adresse, comme ça par habitude. J'avais complètement oublié que je devais me planquer 2 ou 3 jours dans un hôtel pour pas rentrer à la maison avant le début des vacances. Quand je m'en suis souvenu, on en était déjà à la moitié du chemin, alors j'ai dit « Eh, ça vous ennuierait de faire demi-tour quand ce sera possible? Je vous ai pas donné la bonne adresse. Je voudrais retourner d'où on vient. » Le chauffeur était un petit malin. « Je peux pas faire demi-tour ici, mon vieux. C'est sens unique. Maintenant, faut que je continue tout le chemin jusqu'à la 90e rue. » J'ai pas voulu me lancer dans une discussion, j'ai dit « Ok. » Puis ça m'est revenu à l'esprit tout d'un coup. « Eh, dis donc, vous avez vu les canards près de Central Park, le petit lac? Vous savez pas par hasard où ils vont, ces canards, quand le lac est complètement gelé? Vous savez pas ?» Je me rendais compte qu'il y avait guère plus d'une chance sur 1 million qu'il sache. Il s'est retourné et il m'a regardé comme si j'étais vraiment fêlée. « À quoi tu joues ? À te foutre de ma gueule ?»« Non, c'est seulement que ça m'intéresserait de savoir. » Il a rien répondu, et moi j'ai plus rien dit, jusqu'à ce qu'on sorte du parc dans la 90e rue. Là, il a dit « Bon, alors petit gars, où ?» Là voilà bien la question. Où va-t-il, Holden Caulfield ? Quelle destination ? Il se pourrait bien, en fait, qu'il ait peur, et que M. Antolini, un de ses anciens professeurs avec qui il a une longue discussion, le met en garde contre un échec, peut-être inéluctable. M. Antolini a allumé une autre cigarette. C'était un fumeur enragé. Puis il a soupiré. Finalement, je ne sais pas quoi te dire, Holden. J'ai l'impression que tu cours à un échec effroyable. Mais quel genre d'échec ? Je ne le sais pas encore. Honnêtement dit, tu m'écoutes ? Oui. On voyait qu'il s'efforçait de se concentrer. Il me dit « Quel genre d'échec, comment tu t'en rendras compte et quand ?»« Eh bien, ce sera peut-être un jour, tu auras dans les 30 ans, où, assis dans un bar, tu te mettras soudain à détester le type qui vient d'entrer, simplement parce qu'il aura l'air d'avoir été autrefois sélectionné pour jouer dans l'équipe de football de son université. Ou bien le jour où tu t'apercevras que de toutes tes études, tu n'as retiré que juste ce qu'il faut pour pouvoir détester les gens qui disent « je m'en souviens » et pas « je m'en rappelle ». Ou bien encore, tu te retrouveras dans un bureau minable Et tu découvriras que pour passer le temps, tu en es à bombarder de trombones la dactylo de l'autre côté de la table. Ou n'importe quoi de ce genre. Le roman de Salinger, lui, est très loin de l'échec, aussi éloigné qu'on peut l'être. Et Holden Caulfield a de nombreux fans. L'écrivain et critique littéraire Frédéric Becbédé est l'un d'entre eux.
Oui, oui, bien sûr. Bah, depuis que j'ai lu L'Attrape-cœur, j'ai une vénération pour le personnage de Holden Caulfield et l'auteur. J'ai eu à 14 ans une sorte de révélation avec cette histoire de garçon qui se plaint toute la journée, qui critique tout, qui est enragé, qui veut pas rentrer chez lui. Et comme j'étais moi-même un garçon très bien élevé, très obéissant, je me suis défoulé en lisant L'Attrape-cœur. J'ai eu l'impression que la liberté existait.
Mais L'Attrape-cœur, c'est aussi le livre préféré de Mark David Chapman, l'assassin de John Lennon. Il avait le livre sur lui au moment du meurtre. Il déclarera à la police « Je suis sûr que la plus grande partie de moi-même est Holden Caulfield. L'autre doit être le diable. » Une tragédie. Un jour, Salinger s'est enfermé. En 1965, il rembourse l'avance de 75 000 dollars que lui avait consenti son éditeur et fait clairement comprendre qu'il n'autorisera plus aucune publication de son œuvre. Il exige également de superviser la fabrication de tous ses livres, interdit les illustrations de couverture, les notices biographiques, les extraits de critiques, bref, tout ce qui n'est pas le texte. Rien que le texte. Il fuit la presse, les rencontres officielles et les séances de dédicaces. Dans une très rare interview accordée en 1974, il glisse à un reporter du New York Times « Il y a une paix merveilleuse à ne pas publier. C'est paisible, silencieux. Publier est une invasion terrible de ma vie privée. J'aime écrire, j'adore écrire, mais je n'écris que pour moi et mon propre plaisir. » Salinger se tait, mais il continue d'écrire. Et plus il se tait, plus sa légende prospère. Une rumeur assure qu'il garde au moins 2 gros manuscrits chez lui dans un coffre-fort. Comment savoir si cela est vrai? S'il y a vraiment un trésor enfoui quelque part? Jérôme David Salinger vit reclus à Cornish, un village du New Hampshire, au bord de la rivière Connecticut, depuis l'hiver 52. J'ai grandi dans un monde pratiquement désert, écrit sa fille Margaret. À Corniche, l'endroit sauvage et boisé où nous vivions, nos plus proches voisins étaient un groupe de 7 pierres tombales couvertes de mousse que mon frère et moi avons découvertes un jour de pluie en suivant la trace d'un triton. 2 grandes tombes avec 5 petites à leurs pieds, vestiges d'une famille disparue depuis longtemps. Mon père décourageait les visiteurs au point qu'un observateur extérieur n'aurait vu en ces lieux que terre vaine d'isolement. D'une certaine façon, ce retrait du monde était annoncé. Holden Caulfield a un grand frère qui, nous dit Salinger, a été un véritable écrivain, à une certaine époque, mais qui est depuis parti à Hollywood se prostituer. Salinger fait ici référence à l'adaptation cinématographique d'une de ses nouvelles, une adaptation qu'il a beaucoup déçue, qu'il juge tout simplement grotesque. Le succès de l'attrape-cœur n'arrangera rien. Il pèse trop lourd sur les épaules de l'écrivain et finira de le dégoûter du monde. Harcelé, Salinger verrouillera définitivement sa porte. Verrouiller la porte, c'est ce que Salinger fait répéter dans un court texte à un soldat épuisé qui cherche un endroit où dormir sur un champ de bataille. Il est sale, il a froid et il a un ongle arraché. Il a trouvé une couverture allemande tachée et tente de s'aménager un trou en ôtant des mottes de terre maculées de sang. « Quand je retirerai ma main dessous la couverture, » pensa le soldat, « mon ongle aura repoussé, mes mains seront propres, mon corps sera propre. Je porterai un caleçon propre, un maillot propre, une chemise blanche, une cravate bleue à pois, un costume gris à rayures, et je serai chez moi et je verrouillerai la porte. Je ferai du café, je mettrai des disques et je verrouillerai la porte. Je lirai mes livres, je boirai le café chaud, j'écouterai de la musique et je verrouillerai la porte. J'ouvrirai la fenêtre, je ferai entrer une gentille fille, paisible, pas française, pas une fille que je connais, et je verrouillerai la porte. Je lui demanderai de marcher dans la pièce et je regarderai ses chevilles américaines et je verrouillerai la porte. Je lui demanderai de me lire un peu d'Emily Dickinson, ce poème à propos de l'absence de carte, et je lui demanderai de me lire du William Blake, ce poème qui commence par « Petit agneau, qui t'a créé ?» Et je verrouillerai la porte. Elle aura une voix américaine. Elle ne me réclamera pas de chewing-gum ni de bonbons. Et je verrouillerai la porte. Nous écoutons Indochine, des fleurs pour Salinger.
Possible.
Cette existence d'ermite est difficile pour ses proches. Salinger est exigeant. Il balaye d'un revers tout ce qui peut se mettre entre lui et l'écriture. La littérature est sacrée et il considère qu'il faut l'approcher avec une dévotion de moine. Exigeant, Salinger, et extravagant. En quête de spiritualité, il est attiré par de nombreuses religions orientales, dont certaines assez farfelues. Il se décrit lui-même comme un bouddhiste zen raté. On dit qu'il se serait un temps nourri exclusivement de noix et de petits pois. Désorienté, à la recherche d'une carte, d'une étoile polaire, il se laisse embarquer par des discours quasi-sectaires qui lui procurent l'illusion d'une sécurité, l'illusion d'un monde réconcilié dans lequel personne n'est exclu, où il n'y a pas de guerre, pas d'atrocité, où les hommes se comprennent et s'entraident, où l'on peut toujours compter sur quelqu'un, un ami, un copain. Mon rêve, dit Holden, c'est un livre qu'on n'arrive pas à lâcher, et quand on l'a fini, on voudrait que l'auteur soit un copain, un super copain, et on lui téléphonerait chaque fois qu'on en aurait envie. Jérôme David Salinger est mort le 27 janvier 2010, à l'âge de 91 ans. Et ce fut là sa dernière disparition. Chers auditeurs, merci. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Radio B. Et je vous retrouve avec grand plaisir, mercredi 8 novembre, pour un nouveau portrait d'écrivain, celui de la fragile et géniale Virginia Woolf. À bientôt.